France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte. Certes, mais les amours de Jacques. Touche-t-on à la conclusion des amours de Jacques ? Sans doute, puisque voici le 10e et dernier épisode de l'adaptation du roman de Denis Diderot. Au lecteur, à l'auditeur, de changer, parfois, et s'il le veut, la trame du roman. Et toujours, en tête de distribution, Jean-Pierre Cassel, dans le rôle de Jacques le Fataliste. Première diffusion sur RTF Promotion, le 22 novembre 1963.
Jacques le Fataliste et son maître de Diderot, découpé par Roger Pilaudin et réalisé par Henri Soubéran.
Après les balivernes et autres propos de la même importance que vous entendîtes hier, Jacques et son maître se turent. Et Jacques, relevant son énorme chapeau, parapluie dans les mauvais temps, parasol dans les temps chauds, couvre-chef en tout temps, le ténébreux sanctuaire sous lequel une des meilleures cervelles qui ait encore existé consultait le destin dans les grandes occasions, Jacques donc, relevant son énorme chapeau et promenant ses regards au loin, aperçut un laboureur qui rouait inutilement de coups un des deux chevaux qu'il avait attelé à sa charrue. Ce cheval, jeune et vigoureux, s'était couché sur le sillon et le laboureur avait beau le secouer par la bride, le prier, le caresser, le menacer, jurer, frapper, l'animal restait immobile et refusait opiniâtrement de se relever.
Savez-vous, monsieur, ce qui se passe là ?
Et que veux-tu qu'il se passe autre chose que ce que je vois ?
Vous ne devinez rien ?
Non. Et toi, que devines-tu ?
Je devine que ce sot, orgueilleux, fainéant animal est un habitant de la ville qui, fier de son premier état de cheval de selle, méprise la charrue. Et pour vous dire tout, en un mot, que c'est votre cheval qu'on vous vola.
Oui, le mardi 12, au cours de la seconde émission. Oui.
Que c'est votre cheval, le symbole de Jacques que voilà, et de tant d'autres lâches coquins comme lui qui ont quitté les campagnes pour venir porter la livrée dans la capitale et qui aimeraient mieux mendier leur pain dans les rues ou mourir de faim que de retourner à l'agriculture, le plus utile et le plus honorable des métiers.
Oh, pauvre diable, touche tant que tu voudras.
Il a pris son pli, et tu useras plus d'une mèche à ton fouet avant que d'inspirer à ce maraud-là un peu de véritable dignité et quelques goûts pour le travail. Allons, monsieur, cessez de rire et venez. Mais venez, c'est votre cheval, c'est votre cheval.
Et ce l'était, en effet. À peine l'animal eut-il reconnu Jacques et son maître qu'il se releva de lui-même, secoua sa crinière, hennit, se cabra et approcha tendrement son mufle du mufle de son camarade. Cependant, Jacques, indigné, disait entre ses dents
« Gredin, vaurien, paresseux, à quoi tient-il que je ne te donne 20 coups de botte ?»
Son maître, au contraire, le baisait, lui passait une main sur le flanc, lui frappait doucement la croupe de l'autre et, pleurant presque de joie, s'écriait
« Mon cheval, mon pauvre cheval, mon cher cheval, je te retrouve donc. »
Le laboureur n'entendait rien à cela.
« Je vois, messieurs, que ce cheval vous a appartenu. Mais je ne l'en possède pas moins. Légitimement, je l'ai acheté à la dernière fois. Si vous vouliez le reprendre, pour les deux tiers de ce qu'il m'a coûté, vous me rendriez un grand service. Car je n'en puis rien faire. Lorsqu'il faut le sortir de l'écurie, c'est le diable. » Lorsqu'il faut l'atteler, c'est pis encore. Lorsqu'il est arrivé sur le champ, il se couche et il se laisserait plutôt assommer que de donner un coup de collier ou que de souffrir un sac sur son dos. Hein, messieurs, auriez-vous la charité de me débarrasser de ce maudit animal-là ? Il est beau, mais il n'est bon à rien qu'à piaffer sous un cavalier et ce n'est pas là mon affaire.
L'ami, prenez donc de ces deux chevaux-ci celui qui vous convient le mieux.
Et nos deux voyageurs, revenant au petit pas, à l'endroit où ils s'étaient reposés, virent avec satisfaction le cheval qu'ils avaient cédé au laboureur se prêter sans répugnance à son nouvel état.
Eh bien, monsieur.
Eh bien, rien n'est plus sûr que tu es inspiré, Jacques. Est-ce de Dieu? Est-ce du diable? Je l'ignore. Jacques, mon cher ami, je crains que vous n'ayez le diable au corps.
Et pourquoi le diable?
C'est que vous faites des prodiges et que votre doctrine est fort suspecte.
Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre la doctrine que l'on professe et les prodiges qu'on opère?
Je vois que vous n'avez pas lu Don Lataste.
Et ce Don Lataste que je n'ai pas lu, que dit-il?
Il dit que Dieu et le diable font également des miracles.
Ah, et comment distingue-t-il les miracles de Dieu des miracles du diable?
Par la doctrine. Si la doctrine est bonne, les miracles sont de Dieu. Si elle est mauvaise, les miracles sont du diable.
Et qui est-ce qui m'apprendra à moi, pauvre ignorant, si la doctrine du faiseur de miracles est bonne ou mauvaise? Allons, monsieur, remontons sur nos bêtes. Que vous importe que ce soit de par Dieu ou de par Belzébuth que votre cheval se soit retrouvé? En ira-t-il moins bien?
Non, non, cependant, Jacques, si vous étiez possédé...
Et quel remède y aurait-il à cela?
Le remède, ce serait, en attendant l'exorcisme, ce serait de vous mettre à l'eau bénite pour toute boisson.
Moi, monsieur? À l'eau? Jacques, à l'eau bénite? Oh, mais j'aimerais mieux que 1000 légions de diables me restassent dans le corps que d'en boire une goutte bénite ou pas bénite. Est-ce que vous ne vous êtes pas aperçu que j'étais hydrophobe?
Hydrophobe! Jacques a dit hydrophobe! Non, auditeur, non. Je confesse que le mot n'est pas de lui. Mais avec cette sévérité de critique-là, je vous défie de lire une scène de comédie ou de tragédie, un seul dialogue, quelque bien qu'il soit fait, sans surprendre le mot de l'auteur dans la bouche de son personnage. Non, en réalité, Jacques a dit...
Monsieur, est-ce que vous ne vous êtes pas encore aperçu qu'à la seule vue de l'eau, la rage me prend?
Eh bien, en disant autrement que lui, j'ai été moins vrai, mais plus court. Jacques et son maître couchèrent encore une fois en route. Ils étaient trop voisins du terme de leur voyage pour que Jacques reprît l'histoire de ses amours. D'ailleurs, il s'en manquait beaucoup que son mal de gorge fût passé. Le lendemain, ils arrivèrent...
Où?
D'honneur, je n'en sais rien.
Et qu'avaient-ils à faire où ils allaient?
Tout ce qu'il vous plaira.
Est-ce que le maître de Jacques disait ses affaires à tout le monde?
Quoi qu'il en soit, elles n'exigeaient pas au-delà d'une quinzaine de séjours.
Se terminèrent-elles bien? Se terminèrent-elles mal?
C'est ce que j'ignore encore. Un matin, le maître dit à son valet...
Jacques, bride les chevaux et remplis ta gourde. Il faut aller où tu sais.
Parlez donc de vos amours, mon maître. Vous en étiez au moment où, après avoir été heureux deux fois avec Agathe, et cela grâce à la complicité du chevalier, vous vous disposiez peut-être à l'être une troisième.
Mais lorsque tout à coup, la porte du corridor s'ouvre. Voilà la chambre pleine d'une foule de gens qui marchent tumultueusement. J'aperçois des lumières, j'entends des voix d'hommes et de femmes qui parlaient tous à la fois. Les rideaux sont violemment tirés, et j'aperçois le père, la mère, les tantes, les cousins, les cousines et un commissaire.
Messieurs, mesdames, point de bruit. Le délit est flagrant. Monsieur est un galant homme. Il n'y a qu'un moyen de réparer le mal, et monsieur aimera mieux s'y prêter de lui-même que de s'y faire contraindre par les lois. Monsieur, vous êtes fort bien. Il faut cependant que vous ayez pour agréable de vous lever et de vous vêtir.
Ce que je fis, mais avec mes habits qu'on avait substitués à ceux du chevalier. On approcha une table, le commissaire se mit à verbaliser. Cependant, la mère se faisait tenir à quatre pour ne pas assommer sa fille, et le père essayait de la calmer. Les autres personnages étaient dispersés sur des chaises dans les différentes attitudes de la douleur, de l'indignation et de la colère. Le procès-verbal dressé, on m'en fit lecture. Et, comme il ne contenait que la vérité, je le signai.
et je descendis avec le commissaire qui me pria très obligeamment de monter dans une voiture qui était à la porte, d'où l'on me conduisit droit au Fort l'Évêque.
Au Fort l'Évêque, en prison ?
En prison. Et puis, voilà un procès abominable. Il ne s'agissait rien moins que d'épouser Mademoiselle Agathe. Les parents ne voulaient entendre à aucun accommodement. Dès le matin, le chevalier m'apparut dans ma retraite.
Hélas, mon ami, je sais tout. Agathe est désolée, mais ses parents sont enragés. J'ai moi-même essuyé les plus cruels reproches sur la perfide connaissance que je leur ai donnée. Ils m'accusent d'être la première cause de leur malheur et du déshonneur de leur fille. En vérité, ces pauvres gens font pitié. Je n'ai pas obtenu sans peine de parler à Agathe en particulier. Elle a voulu m'arracher les yeux, m'a accablé des noms les plus odieux. Je m'y attendais. J'ai laissé tomber ses fureurs. Après quoi, j'ai tâché de l'amener à quelque chose de raisonnable. Mais cette fille dit une chose à laquelle je ne sais point de réplique.
Mon père et ma mère m'ont surprise avec votre ami. Faut-il leur apprendre que, couchant avec lui, je croyais coucher avec vous ?
Mais en bonne foi, croyez-vous que mon ami puisse vous épouser, Agathe ?
Non ! C'est vous, indigne ! C'est vous, infâme, qui devriez y être condamné.
Mais, chevalier, il ne tiendrait qu'à vous de me tirer d'affaire.
Comment cela ?
Comment ? En déclarant la chose comme elle est ?
J'en ai menacé Agathe. Mais certes, je n'en ferai rien. Il est incertain que ce moyen nous servît utilement. Et il est très certain qu'il nous couvrirait d'infamie. Aussi, c'est votre faute.
Ma faute ?
Eh oui, votre faute. Si vous eussiez approuvé l'espièglerie que je vous proposais, Agathe aurait été surprise entre deux hommes. Et tout ceci aurait fini par une dérision. Enfin, cela n'est point. Et il s'agit de se tirer de ce mauvais pas.
Mais, chevalier, pourriez-vous m'expliquer un petit incident ? C'est mon habit repris et le vôtre remis dans la garde-robe. Ma foi, j'ai beau y rêver, c'est un mystère qui me confond. Cela m'a rendu Agathe un peu suspecte. Il m'est venu dans la tête qu'elle avait reconnu la supercherie et qu'il y avait entre elle et ses parents je ne sais quelle connivence.
Peut-être vous aura-t-on vu monter. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous fûtes à peine déshabillé, qu'on me renvoya mon habit et qu'on me redemanda le vôtre.
Cela s'éclaircira avec le temps. Lorsque le commissaire entra, le chevalier pâlit et sortit brusquement.
Dites-moi donc qui est l'homme qui s'est évadé quand je suis entré, monsieur.
Il ne s'est point évadé, monsieur le commissaire. Il est sorti. C'est mon intime ami, le chevalier de Saint-Ouen.
Votre ami ? Vous avez là un plaisant ami. Savez-vous, monsieur, que c'est lui qui m'est venu avertir ? Il était accompagné du père et d'un autre parent.
Lui ?
Lui-même.
Êtes-vous bien sûr de votre fait ?
Très sûr. Mais comment l'avez-vous nommé ?
Le chevalier de Saint-Ouen.
Ah, le chevalier de Saint-Ouen. Nous y voilà. Et savez-vous ce que c'est que votre ami, votre intime ami, le chevalier de Saint-Ouen ? Un escroc. Un homme noté par 100 mauvais tours. La police ne laisse la liberté du pavé à cette espèce d'homme-là qu'à cause des services qu'elle en tire quelquefois. Ils sont fripons et délateurs des fripons. Et on les trouve apparemment plus utiles par le mal qu'ils préviennent ou qu'ils révèlent que nuisibles par celui qu'ils font.
Je racontai au commissaire ma triste aventure telle qu'elle s'était passée. Il ne la vit pas d'un œil beaucoup plus favorable, car tout ce qui pouvait m'absoudre ne pouvait ni s'alléguer ni se démontrer au tribunal des lois.
Si ces gens sont bien conseillés, l'autorité y pourra très peu de choses.
Quoi, monsieur le commissaire ? Je serais forcé d'épouser ?
Épouser, cela serait bien dur. Aussi ne l'appréhendais-je pas. Mais il y aura des dédommagements, et dans ce cas, ils sont considérables.
Mais, Jacques, je crois que tu as quelque chose à me dire.
Oui, je voulais vous dire que vous fûtes en effet plus malheureux que moi, qui payais et qui ne couchais pas. Au demeurant, j'aurais, je crois, entendu votre histoire tout courant si Agathe avait été grosse.
Ah, ne te départ pas encore de ta conjecture. C'est que le commissaire m'apprit quelque temps après ma détention qu'elle était venue faire chez lui sa déclaration de grossesse.
Et vous voilà père d'un enfant...
auquel je n'ai pas nui.
Mais que vous n'avez pas fait.
Ni la protection du magistrat, ni toutes les démarches du commissaire ne purent empêcher cette affaire de suivre le cours de la justice. Mais, comme la fille et les parents étaient mal famés, je n'épousais pas entre les deux guichets.
On me condamna à une amende considérable aux frais de Gésine et à pourvoir à la subsistance et à l'éducation d'un enfant provenu des faits et gestes de mon ami, le chevalier de Saint-Ouen, dont il était le portrait en miniature. Ce fut un gros garçon dont mademoiselle Agathe accoucha très heureusement entre le 7e et le 8e mois et auquel on donna une bonne nourrice dont j'ai payé les mois jusqu'à ce jour.
Quel âge peut avoir monsieur votre fils ?
Et il aura bientôt 10 ans. Je l'ai laissé tout ce temps à la campagne où le maître d'école lui a appris à lire, à écrire et à compter. Et ce n'est pas loin de l'endroit où nous allons. Et je profite de la circonstance pour payer à ces gens ce qui leur est dû, le retirer et le mettre en métier. En route. Eh bien, Jacques, que dis-tu de mes amours ?
Oh, qu'il y a d'étranges choses écrites là-haut. Voilà un enfant de fait, Dieu sait comment. Qui sait le rôle que ce petit bâtard jouera dans le monde ? Qui sait s'il n'est pas né pour le bonheur ou le bouleversement d'un empire ?
Je te réponds que non. J'en ferai un bon tourneur ou un bon horloger. Il se mariera, il aura des enfants qui tourneront à perpétuité des bâtons de chaise dans ce monde.
Oui, si cela est écrit là-haut. Mais pourquoi ne sortirait-il pas un Cromwell de la boutique d'un tourneur ? Celui qui fit couper la tête à son roi, n'était-il pas sorti de la boutique d'un brasseur ? Et ne dit-on pas aujourd'hui...
Non, laissons cela. Tu te portes bien, tu sais mes amours. En conscience, tu ne peux te dispenser de reprendre l'histoire d'Étienne.
Mais tout s'y oppose. Premièrement, le peu de chemin qui nous reste à faire. Secondement, l'oubli de l'endroit où j'en étais. Et troisièmement, un diable de pressentiment que j'ai là... que cette histoire ne doit pas finir, que ce récit nous portera malheur et que je ne l'aurai pas si tôt repris qu'il sera interrompu par une catastrophe, heureuse ou malheureuse.
Si elle est heureuse, tant mieux.
D'accord, mais j'ai là qu'elle sera malheureuse.
Malheureuse, soit, mais que tu parles ou que tu te taises, arrivera-t-elle moins ?
Qui sait cela ?
Jacques, tu es né trop tard de 2 ou 3 siècles.
Mais non, monsieur, je suis né à temps, comme tout le monde.
Tu aurais été un grand augure.
Je ne sais pas bien précisément ce que c'est qu'un augure, ni de me soucie de le savoir.
Mais c'est un des chapitres importants de ton traité de divination.
Il est vrai, mais il y a si longtemps qu'il est écrit que je ne m'en rappelle plus un mot. Monsieur, tenez, voilà qui en sait plus que tous les augures, oies fatidiques et poulets sacrés de la République. C'est la gourde. Interrogeons la gourde. Ah, il me semble à présent que je vois le destin moins noir. Dites-moi où j'en étais.
Au château de Déglan, ton genou un peu remis, et Denise chargée par sa mère de te soigner.
Je souffrais par intervalles des douleurs inouïes. Il vint en tête au chirurgien du château que ces souffrances ne pouvaient avoir pour cause que le séjour d'un corps étranger qui était resté dans les chairs après l'extraction de la balle. En conséquence, un matin, il me fit dans le genou une incision large et profonde qui mit à découvert le fond de la blessure, d'où le chirurgien tira avec ses pinces une petite pièce du drap de ma culotte qui y était restée. Depuis cette opération, mon état alla de mieux en mieux grâce aux soins de Denise. Plus de douleur, plus de fièvre, de l'appétit, du sommeil, des forces. Denise me pansait avec exactitude et avec une délicatesse infinie. Lorsque mon pansement était achevé, je lui prenais les deux mains, je la remerciais, je ne savais que lui dire, je ne savais comment je lui témoignerais ma reconnaissance. Elle était debout, les yeux baissés, et m'écoutait sans mot dire. Il ne passait pas au château un seul porte-balles que je ne lui achetasse quelque chose. Une fois c'était un fichu, une autre fois c'était quelques ondes d'indienne ou de mousseline, une croix d'or, une bague... Quand ma petite emplette était faite, mon embarras était de l'offrir, le sien de l'accepter. Un jour, ne sachant que lui donner, j'achetais des jarretières. Elles étaient de soie, chamarrées de blanc, de rouge et de bleu, avec une devise. Le matin, avant qu'elle n'arrivât, je l'ai mis sur le dossier de la chaise qui était à côté de mon lit.
Entrez. Bonjour, Denise.
Bonjour, monsieur Jacques. Oh, oh, les jolies jarretières.
C'est pour mon amoureuse.
Vous avez donc une amoureuse, monsieur Jacques ?
Assurément. Est-ce que je ne vous l'ai pas encore dit ?
Non. Elle est bien aimable, sans doute.
Très aimable.
Et vous l'aimez bien ?
De tout mon cœur.
Elle vous aime de même ?
Je n'en sais rien. Ces jarretières sont pour elle. Et elle m'a promis une faveur qui me rendra fou, je crois, si elle me l'accorde.
Et quelle est cette faveur?
C'est que de ces deux jarretières-là, j'en attacherai une de mes mains. Mais Denise, je crois que vous pleurez. Qu'avez-vous?
J'ai rien.
Est-ce qu'on vous a fait de la peine?
Oui.
Et qui est le méchant? Qui vous a fait de la peine?
C'est vous.
Moi?
Oui.
Mais et comment est-ce que cela m'est arrivé?
C'est là... C'est les...
Les jarretières?
Oui.
Et quoi? C'est cela qui vous a fait pleurer?
Oui.
Oh, Denise, ne pleurez plus. C'est pour vous que je les ai achetées.
Monsieur Jacques, dites-vous bien vrai?
Très vrai. Si vrai que les voilà. Mais j'en garde une.
Monsieur Jacques.
Je la pris par le bras. Je l'approchai de mon lit. Je pris un de ses pieds que je mis sur le bord. Je relevai ses jupons jusqu'à son genou, où elle les tenait serrés avec ses deux mains. Je baisai sa jambe. J'y attachai la jarretière que j'avais retenue. Et à peine était-elle attachée que Jeanne, sa mère, entra.
Voilà une fâcheuse visite.
Peut-être que oui, peut-être que non. Au lieu de s'apercevoir de notre trouble, elle ne vit que la jarretière que sa fille avait entre ses mains.
Voilà une jolie jarretière. Mais où est l'autre?
À ma chambre. Il m'a dit qu'il les avait achetées pour son amoureuse. Et j'ai jugé que c'était pour moi. N'est-il pas vrai, maman, que puisque j'en ai mis une, il faut que je garde l'autre?
Ah, monsieur Jacques Denise a raison. Une jarretière ne va pas sans l'autre. Et vous ne voudriez pas lui reprendre ce qu'elle a?
Pourquoi non?
C'est que Denise ne le voudrait pas. Ni moi non plus.
Mais arrangeons-nous. Je lui attacherai l'autre en votre présence.
Non, 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 cela ne se peut.
Qu'on me les rende donc toutes les deux?
Cela ne se peut pas non plus.
Descendons, Jacques, et faisons ici une pause.
Pourquoi?
Parce que selon toute apparence, tu touches à la conclusion de tes amours.
Pas tout à fait.
Quand on est arrivé au genou, il y a peu de chemin à faire.
Mon maître, Denise avait la cuisse plus longue qu'une autre.
Descendons toujours.
Ils descendent de cheval, Jacques le premier, et se présentant avec célérité à la botte de son maître, qui n'eut pas plutôt posé le pied sur l'étrier que les courroies se détachent et que mon cavalier, renversé en arrière, allait s'étendre rudement à terre si son valet ne l'eût reçu entre ses bras.
Eh bien, Jacques, voilà comme tu me soignes. Que s'en est-il fallu que je ne me sois enfoncé à un côté, cassé le bras, fendu la tête, peut-être tué?
Le grand malheur.
Que dis-tu, Marouf? Attends, attends, je vais t'apprendre à parler. Attends un peu.
Et le maître, après avoir fait faire au cordon de son fouet deux tours sur le poignet, de poursuivre Jacques, et Jacques de tourner autour du cheval en éclatant de rire, et son maître de jurer, de sacrer, d'écumer de rage, et de tourner autour du cheval, en vomissant contre Jacques un torrent d'invectives, et cette course de durer jusqu'à ce que tous deux, traversés de sueur et épuisés de fatigue, s'arrêtèrent l'un d'un côté du cheval, l'autre de l'autre, Jacques haletant et continuant de rire, son maître haletant et lui lançant des regards de fureur.
Monsieur mon maître, en conviendra-t-il à présent?
Mais de quoi veux-tu que je convienne? Chien, coquin, infâme! Sinon que tu es le plus méchant de tous les valets et que je suis le plus malheureux de tous les maîtres.
Mais n'est-il pas évidemment démontré que nous agissons la plupart du temps sans vouloir? Là, mettez la main sur la conscience. De tout ce que vous avez dit et fait depuis une demi-heure, en avez-vous rien voulu? N'avez-vous pas été ma marionnette et n'auriez-vous pas continué d'être mon polichinelle pendant un mois si je me l'étais proposé?
Quoi? C'était un jeu?
Un jeu.
Et tu t'attendais à la rupture des courroies?
Je l'avais préparé.
Mais, et ta réponse impertinente était préméditée?
Préméditée.
Tu es un dangereux vaurien.
Dites, grâce à mon capitaine qui se fit un jour un pareil passe-temps à mes dépens, que je suis un subtil raisonneur.
Et si pourtant je m'étais blessé?
Il était écrit là-haut et dans ma prévoyance que cela n'arriverait pas.
Allons, asseyons-nous. Nous avons besoin de repos.
Asseyons-nous.
Reprends ton récit, Jacques.
Un jour de fête que le seigneur du château était à la chasse... Non, non, je ne saurais... Il m'est impossible d'avancer. Il me semble que j'ai de rechef la main du destin à la gorge et que je me la sens serrée. Pour Dieu, monsieur, permettez que je me taise.
Eh bien, tais-toi. Et va demander à la première chaumière que voilà la demeure du nourricier.
C'était à la porte plus bas. Ils y vont, chacun d'eux tenant son cheval par la bride. À l'instant, la porte du nourricier s'ouvre. Un homme se montre.
Ah, scélérat !
Ciel ! C'est lui ! Sauvez-vous, chevalier !
Lui ? Je suis perdu. Traître ! Mon épée ! Oh. 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 Oh, je suis touché. Je meurs.
Oh.
Mon maître, vous l'avez tué !
Oh ! Oh, tuez-moi aussi !
Les paysans du village accourent. Sauvez-vous, mon maître !
Je me sauve.
Il fallait que cela fût, cela était écrit là-haut.
L'homme tué était le chevalier de Saint-Ouen, que le hasard avait conduit précisément ce jour-là avec Agathe chez la nourrice de leur enfant. Agathe s'arrache les cheveux sur le cadavre de son amant. Le maître de Jacques est déjà si loin qu'on l'a perdu de vue. Jacques, les mains liées sur le dos, est conduit devant le juge du lieu, qui l'envoie en prison.
Il fallait que cela fût. Cela aussi était écrit là-haut.
Oui, et moi, je m'arrête, parce que je vous ai dit de ces deux personnages tout ce que j'en sais.
Et les amours de Jacques ?
Jacques a dit 100 fois qu'il était écrit là-haut, qu'il n'en finirait pas l'histoire. Et je vois que Jacques avait raison.
Comment ? Mais cela ne se peut.
Cela vous fâche ? Eh bien, auditeur, reprenez son récit où il l'a laissé et continuez-le à votre fantaisie. Ou bien faites une visite à Mademoiselle Agathe. Sachez le nom du village où Jacques est emprisonné. Voyez Jacques, questionnez-le. Il ne se fera pas tirer l'oreille pour vous satisfaire. Cela le désennuiera. Mais d'après des mémoires, que j'ai de bonnes raisons de tenir pour suspect, je pourrais peut-être suppléer ce qui manque ici, mais à quoi bon ? On ne peut s'intéresser qu'à ce qu'on croit vrai. Cependant, comme il y aurait de la témérité à prononcer sans un mûr examen sur les entretiens de Jacques le fataliste et de son maître, ouvrage le plus important qui est paru depuis le Pantagruel de maître François Rabelais et la vie et les aventures du compère Mathieu, je relirai ces mémoires avec toute la contention d'esprit et toute l'impartialité dont je suis capable. Et sous huitaine, je vous en dirai mon jugement définitif. Sauf à me rétracter lorsqu'un plus intelligent que moi me démontrera que je me suis trompé. La huitaine est passée. J'ai lu les mémoires en question. Des 3 paragraphes que j'y trouve de plus que dans le manuscrit dont je suis le possesseur, le premier et le dernier me paraissent vraiment originaux. Et voici le premier, qui suppose une seconde lacune dans l'entretien de Jacques et de son maître. Un jour de fête que le seigneur du château était à la chasse et que le reste de ses commensaux était allé à la messe de la paroisse, Jacques était levé. Denise était assise à côté de lui. Il gardait le silence. Ils avaient l'air de se bouder. Et ils se boudaient, en effet. Jacques avait tout mis en œuvre pour résoudre Denise à le rendre heureux. Et Denise avait tenu ferme.
C'est que vous ne m'aimez pas.
Je ne vous aime pas.
Non, vous ne m'aimez pas.
Moi ?
Oui, vous.
Eh bien, monsieur Jacques, je ne vous aime donc pas. Voyez, venez. Faites de la malheureuse Denise tout ce qu'il vous plaira.
Dites-moi, auditeur, ce que vous eussiez fait à la place de Jacques. Rien. Eh bien, c'est ce qu'il fit. Il reconduisit Denise sur sa chaise, se jeta à ses pieds, essuya les pleurs qui coulaient de ses yeux, lui baisa les mains, la consola, la rassura, crut qu'il en était tendrement aimé et s'en remit à sa tendresse sur le moment qu'il lui plairait de récompenser la sienne. Ce procédé toucha sensiblement Denise.
Jacques, au pied de Denise, ne pouvait guère lui essuyer les yeux, Lothaire. À moins que la chaise ne fût fort basse.
Le manuscrit ne le dit pas. Mais cela est à supposer. Et voici le second paragraphe, copié de l'avis de Tristram Shandy. À moins que l'entretien de Jacques le fataliste et de son maître ne soit antérieur à cet ouvrage, et que le ministre Stern ne soit le plagiaire, Ce que je ne crois pas, mais par une estime toute particulière de M. Sterne, que je distingue de la plupart des littérateurs de sa nation, dont l'usage assez fréquent est de nous voler et de nous dire des injures. Une autre fois, c'était le matin. Denise était venue panser Jacques. Tout dormait encore dans le château. Denise s'approcha en tremblant. Arrivée à la porte de Jacques, elle s'arrêta, incertaine si elle entrerait ou non. Elle entra en tremblant. Elle demeura assez longtemps à côté du lit de Jacques, sans oser ouvrir les rideaux. Elle les entr'ouvrit doucement. Elle dit bonjour à Jacques, en tremblant. Elle s'informa de sa nuit et de sa santé, en tremblant. Jacques lui dit qu'il n'avait pas fermé l'œil, qu'il avait souffert, et qu'il souffrait encore d'une démangeaison cruelle à son genou. Denise s'offrit à le soulager. Elle prit une petite pièce de flanelle. Jacques mit sa jambe hors du lit et Denise se mit à frotter avec sa flanelle au-dessous de la blessure. D'abord avec un doigt, puis avec deux, avec trois, avec quatre, avec toute la main. Jacques la regardait faire et s'enivrait d'amour. Puis Denise se mit à frotter avec sa flanelle sur la blessure même, dont la cicatrice était encore rouge. D'abord avec un doigt, ensuite avec deux, avec trois, avec quatre, avec toute la main. Mais ce n'était pas assez d'avoir éteint la démangeaison au-dessous du genou, sur le genou. Il fallait encore l'éteindre au-dessus, où elle ne se faisait sentir que plus vivement. Denise posa sa flanelle au-dessus du genou et se mit à frotter là, assez fermement, d'abord avec un doigt, avec deux, avec trois, avec quatre, avec toute la main. La passion de Jacques, qui n'avait cessé de la regarder, s'accrut à un tel point que, n'y pouvant plus résister, il se précipita sur la main de Denise et la baisa.
Et l'autre paragraphe?
Le troisième paragraphe nous montre Jacques, notre pauvre fataliste, les fers aux pieds et aux mains, étendu sur la paille d'un cachot obscur, se rappelant tout ce qu'il avait retenu des principes de la philosophie de son capitaine, et n'étant pas éloigné de croire qu'il regretterait peut-être un jour cette demeure humide, infecte, ténébreuse, où il était nourri de pain noir et d'eau, et où il avait ses pieds et ses mains à défendre contre les attaques des souris et des rats. On nous apprend qu'au milieu de ses méditations, les portes de sa prison et de son cachot sont enfoncés, qu'il est mis en liberté avec une douzaine de brigands et qu'il se trouve enrôlé dans la troupe de mandrins. Cependant, la maréchaussée qui suivait son maître à la piste l'avait atteint, saisi et constitué dans une autre prison. Il en était sorti par les bons offices du commissaire qu'il avait si bien servi dans sa première aventure. Et il vivait retiré depuis 2 ou 3 mois dans le château de Déglan, lorsque le hasard lui rendit un serviteur presque aussi essentiel à son bonheur que sa montre et sa tabatière. Une nuit, le château de Déglan est attaqué par les mandrins. Jacques reconnaît la demeure de son bienfaiteur et de sa maîtresse. Il intercède et garantit le château du pillage. On lit ensuite le détail pathétique de l'entrevue inopinée de Jacques, de son maître, de Déglan, de Denise et de Jeanne.
Jacques, c'est toi, mon ami.
Jacques,
c'est vous, mon cher maître.
Mais comment t'es-tu trouvé parmi ces gens-là?
Et vous, comment se fait-il que je vous rencontre ici?
Jacques,
c'est vous, Denise.
C'est vous, monsieur Jacques, comme vous m'avez fait pleurer.
Qu'on apporte des verres et du vin, vite, vite. C'est lui qui nous a sauvé la vie à tous. Oh, Jacques.
Quelques jours après, le vieux concierge du château décéda. Jacques obtient sa place et épouse Denise, avec laquelle il s'occupe à susciter des disciples à Zénon et à Spinoza, aimé de Déglan, chéri de son maître et adoré de sa femme. Car c'est ainsi qu'il était écrit là-haut. On a voulu me persuader que son maître et Déglan étaient devenus amoureux de sa femme. Je ne sais ce qu'il en est. Mais je suis sûr qu'il se disait le soir à lui-même...
S'il est écrit là-haut que tu seras cocu, Jacques, tu auras beau faire, tu le seras. S'il est écrit au contraire que tu ne le seras pas, ils auront beau faire, tu ne le seras pas. Dors donc, mon ami.
C'était Jacques le fataliste et son maître, de Diderot. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Avec Jean-Pierre Cassel, Jacques. René Clermont, son maître. Jacques Castelot, le chevalier de Saint-Ouen. Et Robert Chandot, Liliane Gaudet, Christiane Lasquin, Pierre Leproux et Jean Péméja. Avec Jacques Duménil, Diderot. Bruitage Robert Moffra. Chef opérateur du son Francis Granal. Collaboration technique Yann Parentoen. Assistant de production Pierre Cazaret. Réalisation Henri Soubéran.
Cet épisode, le dixième et dernier, a été diffusé pour la première fois sur RTF Promotion, devenue France Culture quelques semaines plus tard, le 22 novembre 1963. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger, ainsi que les précédents épisodes, sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture.